Vous écoutez Radio France Internationale, il est 4h ici à Paris, 2h en temps universel.
Gali Bonin.
À la une de ce journal, l'élection du premier pape américain salué dans le monde entier. Léon XIV a prononcé son premier discours en tant que chef de l'Église catholique. Vous entendrez les réactions et les attentes des fidèles français dès le début de ce journal. 9 mai, journée de commémoration de la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Russie. Plusieurs chefs d'État ont fait le déplacement à Moscou pour l'occasion. Parmi eux, de nombreux dirigeants africains. Guerre commerciale, Washington assouplit ses mesures contre le Royaume-Uni, mais avec l'Union européenne, le bras de fer ne fait que commencer. Et le président français s'apprête à signer un traité bilatéral avec le premier ministre polonais. La cérémonie aura lieu dans la ville de Nancy, dans l'est de la France. Il s'appelle donc Léon XIV. Robert Francis Prévost est devenu le 267e pape à l'issue d'un conclave de 24 heures dans la chapelle Sixtine à Rome. Originaire de Chicago, c'est le premier américain à s'asseoir sur le Saint-Siège. Dans le sillage de François, Léon XIV est considéré comme un pape modéré et il est plutôt bien accueilli par les fidèles rencontrés sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le reportage de Baptiste Coulon.
C'est au cours de la messe à Notre-Dame de Paris qu'Anne-Marie a appris l'élection du nouveau pape.
Tout le monde a crié, tout le monde a applaudi, on était tous contents.
De la joie dans la voix de cette fervente catholique, Léon XIV, à ses yeux, c'est le bon choix.
Il est né dans une famille qui avait des ouvertures parce qu'il est né d'un père français et d'une mère italienne. Il a travaillé au Pérou, donc je pense qu'on a vraiment tout ce qu'il nous faut pour avoir un pape ouvert au monde.
Un pape américain, ouvert et modéré, peut-être un futur opposant à Donald Trump, selon cette fidèle.
Il se met toute sa population à dos. Je ne pense pas que le pape va le suivre dans sa façon de penser.
Pas de tension ni de polémique avec qui que ce soit pour Soline, qui espère au contraire un pontificat apaisé.
Il parle de pont, et ben de faire le pont entre la tradition et la mission, de rester profondément unis au Christ plutôt que de plaire au monde. C'est le Christ qui fait l'unité.
À 17 ans, Constance approuve elle aussi le profil de Léon XIV, mais elle jugera sur les actes. À ses yeux, un dossier est prioritaire pour le nouveau pape, celui des violences sexuelles au sein de l'Église.
Les voix se sont libérées et je trouve que c'est une bonne chose et j'espère que ça sera mis encore plus en avant. Il faut que les gens se sentent à l'aise dans notre Église, qu'ils se sentent bien et protégés.
Un pape résolument tourné vers la jeunesse, c'est aussi l'espoir de cette jeune catholique.
Et dans le monde entier, c'est un déluge de réactions. Le président français Emmanuel Macron a plaidé pour que ce nouveau pontificat soit porteur de paix et d'espérance. Le président libanais, le seul chef d'État arabe chrétien, espère que Léon XIV renforcera le dialogue interreligieux et le président palestinien Mahmoud Abbas a souhaité au nouveau pape de poursuivre les efforts de paix entrepris par son prédécesseur. Pour plus de réactions, d'analyses et pour comprendre les enjeux des jours à venir, rendez-vous dans quelques heures sur notre antenne. RFI sera en édition spéciale à partir de 8h, heure de Paris.
RFI.
C'était une journée d'hommage d'un bout à l'autre de l'Europe. Il y a 80 ans, le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait face à l'avancée des forces alliées. En France, Emmanuel Macron a déclaré que face au retour du spectre de la guerre sur le continent, nous n'aurons jamais fini de défendre la paix. Au Royaume-Uni, le roi Charles III a rendu hommage aux soldats britanniques morts durant la Seconde Guerre mondiale. Cérémonie à l'abbaye de Westminster où le couple royal a déposé une couronne de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. En Russie, les célébrations ont lieu vendredi, le 9 mai. À Moscou, plusieurs dirigeants étrangers sont rassemblés, parmi ceux qui ont répondu à l'appel du président, le chinois Xi Jinping, qui a d'ailleurs déclaré avoir eu des discussions approfondies, cordiales et fructueuses avec Vladimir Poutine. Mais dans les gradins, plusieurs dirigeants africains seront également présents pour le grand défilé sur la place rouge, François Mazet.
Une demi-douzaine de dirigeants africains seront ce matin en tribune pour assister au défilé de la victoire de ce que les Russes appellent la Grande Guerre patriotique. La plupart ont une bonne relation de longue date avec Moscou, comme Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir à Brazzaville quand le Congo était officiellement marxiste. Sur place depuis mercredi, il a déjà rencontré Vladimir Poutine. Les deux hommes ont loué l'amitié entre les deux pays. Autres présents, l'équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema, le bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo, le zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, l'égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le président éthiopien Taye Atzke Selassie, dont la fonction est principalement honorifique. Sur place également le maréchal Khalifa Haftar, qui contrôle l'Est libyen, plus que jamais plaque tournante stratégique et logistique pour Moscou, et Ibrahim Traoré. C'est le troisième voyage seulement hors des pays de l'AES pour le chef de la junte burkinabé depuis le putsch de septembre 2022, le deuxième en Russie. Il doit être reçu en tête-à-tête au Kremlin samedi.
Et en Algérie, cette journée du 8 mai est plutôt synonyme de deuil. Jeudi, des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Sétif pour commémorer la répression sanglante du 8 mai 1945. Sous le slogan « La France doit reconnaître ses crimes », les manifestants réclamaient des excuses officielles de l'ancienne puissance coloniale. Il y a 80 ans, les autorités françaises ont massacré des milliers d'indépendantistes algériens durant un rassemblement. Les morts se comptent entre 2000 et 20 000 selon la France et jusqu'à 45 000. Selon les Algériens. C'est une première trêve depuis le début de la guerre commerciale lancée par Donald Trump. Londres et Washington ont dévoilé un accord entre les deux pays. Le Royaume-Uni échappe ainsi à la majorité des surtaxes américaines. Celle de 25% sur les importations automobiles sera ramenée à 10%. En échange de cet assouplissement, le marché britannique va s'ouvrir davantage aux produits agricoles transatlantiques, comme le bœuf ou encore l'éthanol. Entre Bruxelles et Washington, l'espoir d'une entente est encore loin. Jeudi, l'Union européenne a détaillé les mesures de représailles en cas d'échec des négociations. Bruxelles ne veut pas apparaître en position de faiblesse face à Donald Trump, Nathanaël Vitran.
L'UE menace, en cas de retour de la surtaxe de 20% imposée à ses produits, de taxer en retour pour 95 milliards d'euros d'importations américaines. La liste des produits concernés est longue, des fruits et légumes aux avions Boeing, en passant par les voitures, les batteries électriques ou encore l'électroménager. Comme l'ont déjà fait le Canada et la Chine, les Européens entendent aussi saisir l'Organisation mondiale du commerce pour contester les mesures unilatérales prises par Washington. L'Europe sort les griffes au moment où la pression monte sur l'administration Trump. Face à l'effondrement des marchés financiers, il n'avait pas fallu deux jours au président américain pour mettre en pause les taxes à l'importation massive qu'il avait imposées le 7 avril dernier à tous les partenaires commerciaux des États-Unis. Mais la date du 8 juillet, à partir de laquelle ces tarifs doivent entrer à nouveau en vigueur, approche, et l'accord signé avec Londres ce jeudi est le seul à ce jour dont peut se targuer Trump, le négociateur. Un accord par ailleurs très limité dans son ampleur et cela n'a pas échappé aux Européens.
Nathanaël Vitran du service économie de RFI. Le président américain demande une nouvelle fois de mettre fin à la guerre en Ukraine. Sur son réseau social Truth Social, Donald Trump appelle à un cessez-le-feu de 30 jours sans condition. Après un appel avec son homologue américain Volodymyr Zelensky, s'est dit disposé à toute forme de négociation dans l'espoir d'obtenir une trêve. Trêve qu'il espère plus solide que celle décrétée unilatéralement par le président russe. Vladimir Poutine a promis 3 jours de paix à l'occasion des commémorations du 9 mai 1945, mais l'état-major ukrainien rapporte des centaines de violations du cessez-le-feu et des attaques russes sur toute la ligne de front. En cette journée de l'Europe, Emmanuel Macron accueille le Premier ministre polonais Donald Tusk. Les deux dirigeants vont signer vendredi après-midi un traité franco-polonais à Nancy. Cette ville, dans l'est de la France, n'a pas été choisie au hasard. Elle symbolise les liens qui unissent les deux pays, Anastasia Becchio.
Emmanuel Macron accueillera Donald Tusk sur la magnifique place Stanislas. Elle porte le nom de l'ancien roi de Pologne devenu duc de Lorraine, Stanislas Leszczynski, par ailleurs beau-père de Louis XV. Au-delà du symbole, l'événement est destiné à hisser les relations franco-polonaises à un niveau supérieur. Signe de l'importance que revêt la Pologne pour la France, ce traité bilatéral est le premier signé avec un pays non frontalier. Les contours de l'accord restent encore flous. Selon Emmanuel Macron, il doit concerner les domaines stratégiques de la défense à l'énergie en passant par le nucléaire, la coopération scientifique, linguistique et culturelle. Côté polonais, le ministre des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, avait affirmé que ce traité mentionnerait de fortes clauses de sécurité. Avec la guerre en Ukraine à ses portes, la Pologne est devenue une puissance régionale incontournable. Son armée est la plus importante du continent et ses dépenses de défense avoisinent les 5% de son PIB. Très atlantiste et dépendante des États-Unis pour la fourniture d'équipements militaires, elle cherche toutefois à nouer de nouvelles alliances dans un contexte d'instabilité générée par la présidence Trump. La France y voit une opportunité de rapprochement qui sera scellée cet après-midi au Palais Stanislas. Anastasia Becchio, Nancy, RFI.
Et voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour plus d'informations, consultez notre application mobile Pure Radio ou notre site internet www.rfi.fr.